Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue sur Pavillon Nomade. Nous sommes le 11 septembre. L'automne s'installe gentiment, les châtaignes sont bientôt mûres, les jardiniers ont fauché les prés, ils ont rattelé propre en ordre pour faciliter la récolte. Pavillon Nomade est une radio en balade. Jeudi passé, nous étions dans notre petit studio sous le théâtre du Racco. Le lendemain, à Martigny, au Cap du Manoir. Et aujourd'hui, nous sommes au Poinçon, un atelier d'artistes dans lequel Stéphane Lévy s'est installé depuis le début août. Au sommaire de cette émission, nous parlerons un peu de l'automne et beaucoup de cartes. Cartes de géographie, cartes à jouer, peut-être aussi cartes postales, cartes de crédit. Alors, vous dire encore que je devais animer cette émission avec Elvio, qui a malheureusement dû décliner. Mais rassurez-vous, il ne m'a pas complètement abandonné, puisque Elvio avait préparé une introduction. La voici. Pavillon Nomade soigne les clichés à coups de musique, d'humour. Notre ordonnance, une dose de bonne humeur. Trois gélules de créativité et zéro effet secondaire, sauf parfois des crises de fou rire. Merci Elvio, prends soin de toi. Alors, je ne me sens pas abandonné, parce que je ne suis pas seul dans ce studio. Il y a Stéphane Lévy, Karine, Joël, Guillermo, Corinne, Christian, Eliane et aux manettes, Julien Morin. Alors, on va commencer cette émission. Vous dire, on a quitté le bureau, on a quitté notre studio habituel. Dans le studio de Pavillon Nomade, pour améliorer la qualité sonore, on a mis une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a des livres. Et parmi ces livres, j'ai trouvé celui-ci. Cinéma, Boubi et compagnie. Stéphane, vous connaissez ce Boubi et compagnie?
Ouais, c'était mon papa, Yvan Dalin, qui a écrit ce livre sur son enfance à Avenches.
En quatrième de couverture, il est écrit, votre père dit, je n'ai pas suivi la voie royale. Mon père était marchand de bétail, mais moi j'ai fait du théâtre, j'étais reporter, photographe, réalisateur à la télé. Alors, votre père était dans le cinéma. Votre mère, Monique Jacquot, est une photographe. Alors, vous, est-ce que vous avez suivi la voie esquissée par vos parents?
Alors, ce n'est pas exactement la même, parce que moi, la photo, ça ne m'intéresse pas. J'aime la peinture. Parce que la peinture, ce n'est pas un instantané, c'est ce qu'on a au fond des tripes. Alors que la photo, c'est à la sauvette, une image volée d'un instant. La peinture, on plonge dedans. Et puis le cinéma, ben oui, parce que mon métier, c'est chef décoratrice de cinéma. Mais je ne fais pas que ça.
On ne va pas faire l'inventaire de tout. Parce que vous êtes comme un couteau suisse, il y a plein de lames, la décoration, l'artiste. Ici. Mais dans le cinéma, vous avez collaboré avec les plus grands Suisses, Tanin, Reusser, Goretta, Godard, mais aussi, et plus récemment, les frères Larieux. Expliquez-nous voir juste, c'est quoi le rôle d'une chef décoratrice?
Alors, une chef décoratrice, vous arrivez dans un studio comme ici, qui est tout vide, et vous dites, moi, je vais en faire un atelier où on va dessiner des cartes. Et là, par exemple, eh ben, on a fait toutes les cartes pour animer l'espace. Et comme il n'y avait pas assez de choses dans l'espace, on a mis un évier, des tables, et puis on a mis une presse, et puis un paperboard, pour faire des cartes de réflexion de comment on allait élaborer cet atelier.
Donc la chef décoratrice, c'est celle qui transforme un espace vide, un studio, ouais, en quelque chose.
Exactement. Et par exemple, aujourd'hui, comme c'est devenu le Pavillon Nomade, eh bien, il a fallu installer les micros. Et puis la petite lampe jaune devant Eliane qui mentionne notre présence à l'écran et qui est complètement hypnotique.
Alors Stéphane, bienvenue sur Pavillon. Ce n'est pas votre première résidence à Malévaux. La première fois, c'était il y a 6 ans, en 2019. Puis vous êtes revenu une deuxième fois. On n'a pas le droit normalement de venir deux fois. Alors elle est venue dans la valise d'une autre artiste qui s'appelait Marie Ramon, photographe. Puis quand elle a sorti sa valise, boum, 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 comme un petit génie. Stéphane, et là, vous êtes ici pour votre troisième résidence à Malévaux. Alors pourquoi revenir ?
Parce que Malévo, en fait, c'est pour quelqu'un qui travaille dans l'art, dans la création, c'est comme un oignon. On enlève une couche, et puis derrière la couche, il y a une autre couche. Et je pense que Malévo, c'est à l'infini. On peut revenir tant de fois, quoi.
On enlève les couches, on les ajoute.
Moi, je les enlève. Parce qu'une fois, j'aimerais être au cœur de l'oignon. Je n'y suis pas encore. Il y a encore beaucoup de peau pour arriver au cœur de l'oignon.
La première fois que j'ai entendu parler de Stéphane Lévy, c'était il y a une quinzaine d'années au marché de Noël de QI. Il y avait, dans une petite boutique, là, on vendait des petites œuvres, une espèce de petite boîte de sardines décorées. Et puis, on m'a dit, mais qui c'est qui fait ces magnifiques petites boîtes de sardines? Puis, on m'a dit, oh, c'est une Stéphane Lévy. Alors après, j'ai voulu aller la rencontrer. Je suis allé à Paris. Et là, stupeur, j'ai appris qu'il y avait deux Stéphane Lévy. Et je suis allé chez la mauvaise Stéphane Lévy. J'ai dormi chez la mauvaise Stéphane Lévy. Vous avez une doublure à Belleville.
Oui, j'ai une doublure qui est Stéphane Lévy.
C'est laquelle la bonne?
Ah, les deux. À nous deux, on a une vie incroyable. Parce que tout le monde confond nos vies. Et elle travaille effectivement aussi dans le milieu des films. Donc tout le monde nous confond.
Alors cette idée d'avoir un double, d'avoir une doublure, ça vous avait inspiré. Lors de leur première résidence, on avait édité un petit carnet de résidence. Et il y a un article qui s'appelle...
Le réel est son double ou le double sens.
Qu'est-ce qui vous a inspiré à l'autre? Vous vous souvenez de ce travail que vous avez
ouais,
fait ici?
Oui, très très bien.
Alors, on y va.
Alors, je vous raconte. La première fois que je suis arrivée à Malévo, ici, c'était un dimanche. Personne pour m'accueillir, on m'avait juste donné un code. Et puis, j'arrive, je vois qu'il y a deux gares. Mais quelle était la bonne gare? Après, je continue le périple, je vois deux hôpitaux. Donc, mais où est le bon hôpital? Après, j'arrive ici, j'étais au Sismo, à l'atelier Sismo. Et puis, c'était un dimanche ici, et il y a une jeune femme qui arrive et qui me dit, moi, je cherche mon jumeau. Et puis, petit à petit, j'ai vu que sur le parcours, il y avait deux cochons laineux, qu'il y avait deux vélomoteurs des gens qui gardent, qu'il y avait deux éviers à la buvette, qu'il y avait... deux volets roses dans un hôtel, qui avait, pas dans un hôtel, dans un petit pavillon, qui avait toujours, tout était par paire. Et que les mains des dames qui font le ménage avaient deux gants bleus. Voilà, j'ai vu que des choses doubles. Donc c'était bien parce qu'il y avait l'autre Stéphane Lévy qui était resté à Paris, puis Stéphane Lévy qui était venu à Malévo, mais tout le monde était double. Voilà.
Ok. Merci. Ici, nous sommes dans votre atelier, donc un atelier qui s'est enrichi peu à peu de vos travaux, du travail des patients, du travail de participants. Et vous avez créé un jeu de cartes. Certaines cartes ont été réalisées par vous-même, d'autres ont été réalisées par les participants. Comment ça s'est passé pratiquement là où? Ce travail.
Alors ici, une fois que l'atelier était installé, on est dans l'atelier du 6A. Donc là, moi, je vous laisse expliquer ce que c'est le 6A. Ben, pour moi, c'est un atelier collectif qui a lieu deux fois par semaine. Et avec le 6A, on a défini qu'on ferait un jeu totalement collectif et que dans les cartes, chaque personne pourrait intervenir sur les autres cartes. C'est-à-dire que si une carte n'est pas assez élaborée, on peut définir collégialement, parce que tout se passe collégialement, qu'on peut travailler sur les cartes des voisins, etc. Et il y a aussi des cartes de personnes qui sont patients, qui viennent le mardi et le mercredi. Donc tout est un espèce de métissage. C'est un lieu de parole libre. On peut venir déposer ce qu'on veut sur les cartes. Il y a des cartes silencieuses, il y a des cartes extrêmement colorées avec beaucoup de mots, il y a des cartes très sombres, il y a des cartes joker où il y a plusieurs lectures possibles. Et puis si on n'a pas du tout envie de dessiner sur les cartes, il y a un espace sur le mur où on peut dessiner ou écrire des choses ou sur les tables. Et on peut venir ici pour chiller aussi.
Chiller pour les boomers comme moi, ça veut dire quoi, chiller?
Ça veut dire qu'on peut venir juste être là et passer un petit moment. Et puis, parfois, on a des DJ pendant les ateliers qui choisissent leur musique.
Voilà. Mais vous-même, vous travaillez beaucoup sur la carte. Parce que lors de votre première résidence, vous avez établi des cartes. Mais cette fois-ci, pas des cartes à jouer, mais des cartes de géographie.
Ben oui, parce que en fait, dans toute la vie, tout est une grande carte. On se déplace, on peut dessiner ses promenades. Ça fait des dessins incroyables. Le premier travail, c'est sur les promenades dans Malévo. On dirait que c'est un immense poisson à la bouche ouverte, la forme de la promenade.
Et chaque jour, vous faites une promenade et puis vous établissez une nouvelle carte.
Oui, exactement. Il y a un téléphone au son d'oiseau qui sonne. C'est peut-être aussi une carte.
Alors, un oiseau qui sonne, peut-être qu'il sonne le moment d'annoncer la première surprise, mais juste avant, on parle un peu de carte géographie. Joël, merci d'être là. Vous aimiez les cours de géographie ?
Alors, moi, tout d'abord, j'adore la géographie, parce que si madame qui a pris la parole, madame Stéphane, en face de moi, disait ses décorations, qu'elle ne faisait pas de la photo, ben moi, je fais justement de la photo. Donc, actuellement, avant, on mettait les mains, on allait dans des produits, dans des révélateurs, des fixateurs, ainsi de suite. Ben moi, maintenant, je mets une carte mémoire dans mon appareil photo. Voilà. C'est pour ça, si quelqu'un ne fait pas de la photo, actuellement, on sait qu'on doit mettre une carte. C'était ce qui m'avait à l'esprit de pouvoir dire carte. En plus que tout le monde doit avoir une carte d'identité sur soi, eh ben, on a beaucoup de possibilités d'avoir le mot carte.
Karine, justement, la semaine passée, oui. Vous nous avez fait une magnifique chronique sur les bis. Vous avez fait rêver avec ces bis. Et est-ce que vous aimez les cartes, lire les cartes ?
Oui, alors moi, j'aime beaucoup les cartes postales. Mm-hmm. Par exemple, envoyer des cartes postales lorsqu'on est à l'étranger ou lors d'une balade, écrire un petit message à quelqu'un, l'envoyer. Puis moi, j'adore recevoir des cartes postales à la maison. Quoi. Ça me fait voyager.
Est-ce que vous en recevez encore beaucoup ?
Oui, j'en reçois, par exemple, de mon papa, qui voyage souvent. Et puis je lui dis toujours, tu m'enverras une petite carte postale, parce que j'aime bien toucher le carton, avoir cette sensation de photo aussi, d'image, et puis de carton. Et puis je peux la garder, je peux l'afficher à la maison, ça décore chez moi.
Il était où la dernière fois qu'il vous envoyait une carte postale, votre papa ?
Alors il a été au Maroc, avec sa femme. Oui, il voyage beaucoup au Maroc.
Et puis il y avait quoi sur la carte ?
Il y avait un fort, c'était dans un endroit du Maroc... C'était très joli. Et puis aussi, quand il va à Agadir, il y a des belles photos d'Agadir. C'est un magnifique endroit. C'est très beau, quoi. Il y a des belles images.
Vous êtes déjà allé, vous, au Maroc ?
Non, mais j'aimerais bien y aller une fois.
Parce que mes voisins, ils sont allés au Maroc cet été. Et puis j'ai dit, le premier qui m'envoie une photo de chèvre dans un arbre, parce qu'au Maroc, les chèvres, elles grimpent les arbres pour manger les feuilles, ils gagnent un prix. Alors, je pensais être sympa. J'ai bousillé les vacances parce qu'ils sont disputés, les quatre, le papa, la maman, les deux enfants, en disant « c'est moi qui ai vu la photo, oui, mais moi, je n'avais pas la batterie, c'est moi ». Et puis, il paraît que ça a complètement détruit l'ambiance. Voilà. Si j'ai demandé d'envoyer une carte postale, ça aurait été mieux. Joël.
D'accord.
Alors, si jamais, comme je suis ici, puis en l'occurrence à la radio, je ne vais pas pouvoir gagner le concours de photos, parce que malheureusement, je suis ici encore pour un petit moment. Je ne sais pas combien de temps, donc je ne pourrais pas te la faire, la photo. Hein. Ah. Même si on se connaît déjà depuis longtemps, on a écrit, ainsi de suite, ben, je sais que je ne vais pas pouvoir gagner le concours. Mais si tu me demandes une photo qui est beaucoup plus facile, peut-être que je vais arriver.
Une photo d'escalier. Alors, Corinne, vous voulez dire quelque chose à propos de la géographie, les cartes de géographie ?
Moi aussi, j'aime beaucoup les cartes postales. Malheureusement, maintenant, avec WhatsApp, on reçoit plutôt par Internet et plus sur format papier. Mais je collectionnais les cartes avant.
Vous les gardez toutes ou bien certaines, vous les éliminez ? Parce que quand on est un peu fâché avec quelqu'un, on
non,
jette
les... Non, j'ai gardé les cartes postales que j'ai reçues.
Puis vous en écrivez encore ?
Moi, de temps en temps, ça m'arrive aussi d'écrire.
Et puis Stéphane, vous avez le micro, là, vous écrivez encore des cartes postales ?
Oui, moi je les dessine, les cartes postales.
Et puis, oh, mais quelle chance,
je choisis les timbres.
Ah ouais ? Alors, on a voulu faire ici avec Guy Lermont, qui était là, il y a trop de tension, il a dit, moi je préfère préparer une petite surprise pour Stéphane. Alors, on va te faire entendre la première surprise. C'est l'interprétation d'une œuvre de Borges sur les scientifiques qui dressent des cartes.
En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él.
En cet empire, l'art de la cartographie fut poussé à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville et la carte de l'empire toute une province. Avec le temps, ces cartes démesurées cessèrent de donner satisfaction et les collèges de cartographes levèrent une carte de l'Empire qui avait le format de l'Empire et qui coïncidait avec lui point par point. Moins passionnés pour l'étude de la cartographie, les générations suivantes réfléchirent que cette carte dilatée était inutile et non sans impiété. Elles l'abandonnèrent à l'inclémence du soleil et des hivers. Dans les déserts de l'Ouest subsistent des ruines très abîmées de la carte. Des animaux et des mendiants les habitent. Dans tout le pays, il n'y a plus d'autres traces des disciplines géographiques. Vous pouvez imaginer, Stéphane, dresser une carte de Malévo qui aurait la taille de Malévo.
Merci, mais c'est tellement beau, c'est magnifique. Ça me fait dresser les poils. Et ce que je trouve extraordinaire dans les cartes, en fait, c'est que la cartographie, c'est la transcription de son cerveau et de la manière de penser et qu'on peut dresser des cartes à l'infini sur tous les sujets. Merci, Guillermo.
Alors, vous avez parlé de Chile.
Oui.
Chile. Là, on est dans l'Argentine. Georges Borges, il est argentin. Il est mort à Genève. Il est enterré à Genève. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Argentins qui disent « Ah, j'aimerais bien finir comme Borges parce qu'il est enterré à Ginevra. » Parce qu'en argentin, Ginevra, c'est le gin. Donc, il s'est enterré dans le gin. On va faire une première pause musicale à tango.
About his kids and English beer, pulls on his boots again and steps into the pissing rain. And the clouds look just like dirty sheep, but at least he's got a job and he knows he can't complain. And you may think that this song comes too late, but lest we signs and smokes cigars. He shines his medals up for one last chance. They make a pretty pair, but no one understands their game because they can't agree about the stakes. They can't agree on anything. They can't even agree on the name.
Hello, test. De Borges de tout à l'heure, il est de 1946. Cette chanson, déjà de 1986, elle a bientôt 40 ans, ça ne nous rajeunit pas. Alors, on a préparé une deuxième surprise cette fois-ci avec Eliane. Alors, on va se lancer parce que c'est de l'improvisation totale. Vous vous rappelez du Petit Prince ? Il visite des planètes. Alors, il tombe sur la planète de l'alcoolique, il tombe sur la planète de la rose, puis il tombe sur la sixième planète. Il arrive sur cette sixième planète, donc c'était une planète 10 fois plus grande que la sienne, et est habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Alors moi, je joue le vieux monsieur, et Eliane va jouer le petit prince. Tiens, voilà un explorateur, d'où viens-tu?
Quel est ce gros livre? Que faites-vous ici?
Je suis géographe.
Qu'est-ce qu'un géographe?
C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts.
Ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est enfin un véritable métier. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans?
Je ne puis le savoir.
Et des montagnes?
Je ne puis le savoir.
Et des villes, des fleuves et des déserts?
Je ne puis le savoir non plus.
Mais vous êtes géographe.
Mais c'est exact, mais je ne suis pas explorateur. Je manque d'explorateur. C'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner, il ne quitte pas son bureau. Mais il reçoit les explorateurs. Il les interroge. Et il prend en note les souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur.
Pourquoi ça?
Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres du géographe. Et aussi un explorateur qui boirait trop.
Pourquoi ça?
Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une seule.
Alors moi, je connais quelqu'un qui devrait ne pas faire géographe.
Merci. Merci, Eliane. C'est... Le petit prince.
Oh là là, les cadeaux. Aujourd'hui, j'ai des tuteurs à la place des poils.
Ah bon? Alors, Christian, approchez-vous pas trop, ça va piquer. Hein. T'es comment qu'elle a les poils hérissés, comme un hérisson. Vous sentez un peu le petit prince parfois?
Oui.
Avec votre regard ingénu, mais aussi le géographe, puisque vous redressez la carte du jeu.
Oui. Ben oui, puis dans le géographe, il y a presque girafe, donc il y a le long cou pour regarder un peu partout.
Dans le géographe, il y a girafe, ça j'aurais pas pensé. On va faire un petit tour, parce qu'on parle du petit prince. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire du petit prince?
Oui, j'ai quelques livres à la maison, mais je voyais le petit prince, j'ai beaucoup lu quand j'étais... J'avais plus de temps quand j'étais plus jeune, mais je connais bien le petit prince. J'avais beaucoup d'articles dérivés à l'école. On me donnait tout le temps un cartable ou quelque chose du petit prince.
Et plutôt explorateur ou géographe?
Plutôt girafe dans le mot géographe.
Ah ouais, plutôt girafe. Ouais,
voilà, plutôt.
Oui, moi aussi à l'école, on avait lu l'histoire du petit prince. C'était une belle histoire, j'aimais bien. Et puis, on avait pas mal parlé sur ce livre. C'était sympa.
Qu'est-ce que vous vous rappelez de ce livre, l'Ordre du Petit Prince?
Ouais, ben, plus grand-chose. Ah, il était sur une planète, et puis l'histoire de la rose, ou je ne sais plus quoi. Enfin, il y avait un truc comme ça.
Il y avait... Marina, vous connaissez l'histoire du Petit Prince?
Pas du tout.
Pas du tout. Corinne?
Le livre du Petit Prince, je me souviens de la rose. Il y avait une rose qui devait arroser tous les jours. Et puis il visitait d'autres planètes.
Et puis il avait rencontré Christian. Vous vous rappelez de l'histoire du petit prince quand il avait rencontré un ami? C'était qui l'ami du petit prince?
Non.
Vous souvenez pas?
Non.
C'était qui l'ami du petit prince? Alors,
le renard.
Et le renard a dit.
Et il y a le mouton. Dessine-moi un mouton. Mais surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'allumeur de réverbère et qu'en fait, au pavillon nomade, il y a aussi quelqu'un qui allume les réverbères, et c'est Eliane qui allume la lumière.
Merci.
Eliane ne fait pas qu'allumer les réverbères. Elle n'est pas la géographe, attention, elle n'est ni la girafe. Eliane est notre chroniqueuse attitrée, et chaque semaine, elle vient nous parler d'un animal.
Dans la ménagerie d'Eliane.
Ce qui va vous surprendre aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de la girafe, qu'on a repris tout à l'heure, mais ce n'était pas la même. Donc c'est un mammifère d'Afrique, Son habitat, la savane, les prairies. La durée de vie est d'environ 15 ans. Son poids varie entre 800 et 1900 kilos. Sa hauteur de 4 à 6 mètres. Les adultes ont des prédateurs comme le lion, le crocodile ou les hyènes. Elle peut dormir debout ou couchée environ 4 heures par nuit. Grâce à sa langue bleue préhensible d'environ 90 cm, elle se nourrit à la cime des arbres où les autres animaux ne peuvent pas accéder. Malheureusement, elle est en voie de disparition à cause de l'explosion démographique. L'homme est devenu un grand prédateur. On la tue pour leurs os, leur cervelle, à qui on prête des vertus thérapeutiques contre le sida. Le girafon, après 13 mois de gestation, arrive brutalement dans la savane, puisqu'il tombe la tête la première sur le sol. Il va téter maman environ une année. Les femelles vivent en groupe, en formant un carré avec les bébés au milieu. Les mâles continuent à chercher d'autres femelles et ne s'occupent pas de leur progéniture. Cette chronique ne pourrait mieux se terminer avec un coucou à Sophie, la girafe de notre enfance.
Ah, Sophie, la girafe, c'est magnifique, Sophie.
À qui on coupait le kéké parce qu'on ne pouvait plus l'entendre tellement elle nous épuisait.
Ah, c'était terrible.
Ouais. Qui a enlevé autour de cette table le son de la girafe? Moi aussi, je ne pouvais plus.
Mais moi, je dois vous dire que je connais l'importatrice pour la Suisse de Sophie la girafe.
Vas-y, dis Gabriel, on est du même village.
Ah ouais, c'est à Fuy, c'est la présidente de la commune de Fuy, qui son père avait un magasin de jouets et elle a l'exclusivité de Sophie la girafe. Et ils ont fait fortune en vendant ces Sophie la girafe.
Ouais, tous les enfants en ont donc, je veux bien le croire.
Et en fait, c'est les parents qui veulent punir leurs enfants en leur donnant une girafe. Alors, Stéphane, durant cette nouvelle résidence, vous avez décidé, je ne sais pas comment, mais vous avez décidé de créer un jeu de cartes. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Alors, actuellement, il y a à peu près 90 cartes. Et on a fait un prototype pour commencer à jouer avec. Et moi, j'aimerais bien que des gens qui ne connaissent pas le jeu de cartes autour de la table tirent une carte et puis expliquent ce qu'ils ressentent en lisant cette carte. Il faut aussi que vous sachiez que jusqu'au 15, le concours des titres pour le jeu est ouvert. Et vous pouvez venir déposer des titres. Sur le tableau, là, il y en a plusieurs. Je pourrais vous les lire si vous voulez. Mais d'abord, j'aimerais bien que qui veut tire une carte et puis dise à quoi cette carte lui fait penser et puis la décrive.
Alors, Karine va tirer sa carte. Marina. Elles sont toutes différentes. Des pièces uniques, mais qui ont plusieurs auteurs.
Oui, alors on peut être jusqu'à 3 ou 4 par carte, parce qu'on a des choses à déposer sur la carte du voisin, parce que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin.
Alors, on a la radio, on ne peut pas les voir, on va essayer de les décrire. Joël, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte, alors ?
Alors, tout d'abord, sur ma carte, j'ai bien mis dans le bon sens, hein. Je vois que sur le bas, c'est marqué 2-3 paroles, mais qu'elles sont mises sur la partie blanche, alors que dessus, il y a comme un tableau noir. Un tableau noir, on a tous eu pour écrire quelque chose à l'école, justement. Eh bien, à la place, elle est carrément noire, et juste en dessous, il y a des propos.
Vous voulez nous lire les propos?
Heureusement que j'ai trouvé mes lunettes. Hein. Alors, je vais lire surtout ici dessous. Hein. Mon sourire est un masque, mais mes yeux en révèlent la vérité.
Voilà, puis moi alors j'ai trouvé une jolie carte colorée, bien dessiné, où ils ont, je ne sais pas si ça a été collé ou dessiné, mais c'est très beau. C'est sur la nature. Il y a un aigle, il y a un oiseau, il y a des cerises, il y a des fleurs. Enfin, c'est beaucoup sur la nature. Et puis, ça va bien parce que moi, j'adore être dans la nature, écouter le chant des oiseaux, être voir tout ce qu'il y a autour. Des arbres, les châtaignes qu'on trouve ici à Malévo, des belles fleurs, un jardin bien fleuri. Cette carte, elle me fait penser à tout ça, à tout ce que je vois dans la nature. C'est une très, très belle carte.
Ben, moi, j'ai trouvé un soleil avec des rayons noirs avec du jaune et du rouge. Des arbres avec des feuilles bleues et un champ fleuri. Voilà.
Et Marina, qu'est-ce qu'elle vous inspire alors cette carte ? C'est une carte qui... Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des cartes qui étaient neutres, des cartes qui étaient positives, puis des cartes qui étaient plutôt négatives. Vous direz quoi ?
Moi, je dirais les trois.
Celle-ci, elle est les trois. Pourquoi vous direz les trois alors ?
Entre le soleil avec le truc noir et le truc... Je dirais que c'est du positif mélangé avec du négatif. Et puis les arbres, là, avec bleu, c'est mi-positif, mi-négatif. Et le champ avec les fleurs, positif.
OK. Et puis qu'est-ce qu'elle vous inspire, plutôt, cette carte, alors ?
Ouais, ça peut tout être.
Ça peut tout être. Corinne, j'ai vu que vous avez de la peine à lire. Elles sont un peu petites pour vous.
Petit,
c'est écrit petit. Hein.
C'est une carte de la région de Saint-Luc. Avec, il y a des forêts, il y a. Et c'est marqué en grand brouhaha, méli-mélo, l'esprit qui part dans tous les sens, dans toutes les directions. Et il y a plusieurs chemins avec des étoiles, rouges et noires.
Donc, si, pour que ceux qui nous écoutent se fassent une meilleure idée, donc cette carte, elle a été dessinée sur une carte.
Oui. Une toute petite carte de géographie.
Oui. Puis vous avez reconnu...
Et puis j'ai reconnu la région de Saint-Luc, oui.
Le Val-d'Anniviers.
Oui, voilà.
Vous connaissez le Val-d'Anniviers ?
Oui, à Saint-Luc, oui.
Ah, vous connaissez ?
Oui, j'ai déjà été à Saint-Luc, oui. Ah, ah. Et puis Nuuk, je connais aussi.
Oui, puis Saint-Luc, quand on est à Saint-Luc, on peut faire un lien avec le Petit Prince.
Oui.
Alors... Parce qu'on va à Saint-Luc, à l'observatoire, pour observer les étoiles.
Mm-hmm. Oui.
Stéphane, vous avez, il y a des fonds de cartes qui sont des cartes.
Il y a des fonds de cartes qui sont des cartes et il y a des fonds de cartes qui sont des livres. Et sur les livres, on a aussi pu garder quelques mots, mais c'est écrit tout petit, mais surtout dessiné. Et il y a du calque, on peut venir faire des couches, rajouter comme des millefeuilles. En fait, ces cartes, elles peuvent devenir millefeuilles.
Oui, mais les millefeuilles, on va les manger, non ?
Oui, mais celles-ci, elles se mangent des yeux
ah.
et du cœur.
Mais vous respectez rien, Stéphane ?
Rien du tout.
On déchire les livres, on découpe des cartes.
Oui. Et le livre, il s'appelle « La montre ». Et « La montre », il est écrit par Carlo Levi. Et moi, je m'appelle Levi. C'est le hasard qui a fait que j'ai pris ce livre. Mais je trouvais qu'il avait un beau papier un peu ancien. Et puis, je me suis dit que la montre, c'était un beau titre pour être dans un lieu où on n'a pas le temps qui nous accompagne. On est juste au rythme des journées. En tout cas, pour moi, ici, je suis au rythme des journées.
Mais si on a le temps nous est compté, parce que l'émission dure une heure... Alors, je vous dis que Pavillon Nomade, c'est une radio qui se balade. Vendredi passé, nous étions à Martigny et nous avons interrogé un des fondateurs des Motorhead, Luca Fox, qui, par chance, parle très bien le français. On va l'entendre.
Commençons avec l'artiste. Beaucoup d'artistes disent « Écoute, si je suis un succès, c'est parce que je suis un génie. Si je ne suis pas un succès, c'est parce que le manager est mauvais. » OK ? Ça, c'est les artistes. À la base, quand tu crées n'importe quel truc, il faut avoir quelque chose qui accroche les gens. En anglais, on appelle ça un earworm, un ver de terre qui entre dans la tête et que tu n'arrives pas à sortir. Et moi, j'ai un contre-coup à ça. Parce que quand je suis en studio, je suis en train de mixer un groupe gothique ou autre, et tu passes toute la journée sur le même morceau, t'arrives pas à d'en faire. Donc tout d'un coup, je fais mana mana pa 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 da da, mana mana pa pa da pa, et j'arrive à défaire tout. Okay. Mais le truc, c'est Earworm. Si tu n'as pas une chanson, t'es foutu. Je suis désolé, hein. C'est juste comme ça. Et que ça soit folk, que ça soit metal, que ça soit Beethoven, que ça soit Mozart, ba 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 boom. Right? Si tu n'as pas une mélodie qui accroche, tu es foutu. Donc, d'abord, il faut se concentrer sur les chansons. Et dans l'idéal, avec un peu de texte qui en vaut la peine. Et dans l'idéal, avec un chanteur qui a un peu de voix. Et dans l'idéal, pas seulement quelqu'un qui... Non, non. Un mec qui fait... Et tous les poils sont hérissés partout dans la pièce. Right. Ou une slide comme sur Osée Joséphine. Ça, Osée Joséphine, classique. Bachung, magnifique, tu vois.
Il a aussi les poils, il a aussi les poils qui s'hérissent. Donc, oui. Donc ça, c'est l'émission de Pavillon Nomade qui était gérée comme celle-ci. Les personnes, le public pouvait poser des questions. Et là, Luca Fox répondait à la question d'un kidam, là, d'un spectateur qui voulait savoir qu'est-ce qui fait le succès d'une chanson. Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est l'artiste? Ou est-ce que c'est le public? Et la réponse, le succès de la chanson, c'est la chanson. Vous connaissez Motorhead? De nom seulement. Vous n'écoutez pas Motorhead, vous connaissez? Alors Motorhead, c'est un peu un groupe fondateur de ce qu'on appelle le hard rock. D'ailleurs, il expliquait que quand ils ont donné leur premier concert, ils voyaient le public, ils disaient « Ah !» parce qu'ils avaient les cheveux comme ça. Alors on va écouter un peu de hard rock, c'est de la musique qui normalement s'écoute à fond les bisingues. We'll be right back. Donc là, on entend... Alors là, on entend bien Motorhead. Il faut imaginer qu'avant eux, il y avait les Beatles, qui avaient encore le petit costard avec la cravate. Hein. Donc, et c'est un peu les leaders qui ont lancé tous ces groupes, après Deep Purple, Black Sabbath, et tous ces groupes de hard rock qui se divisaient en je ne sais combien de chapelles. Eliane, vous écoutiez-vous du hard rock ?
Oui, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est dynamisant, qui fait bouger, qui fait vivre. Mais je préfère quand même les Beatles.
Ah ouais ?
Ouais. C'est plus ma génération.
Alors, Luca Fox, on l'entendait, la batterie. Il a joué que 18 mois avec le groupe Motorhead, mais c'est lui le fondateur, c'est lui qui avait convaincu Lemmy de venir faire de la musique avec lui. Tout à l'heure, dans l'interview, on l'a entendu dire... Alors, c'est quoi le génie ? Il dit, c'est pas l'artiste, c'est pas le producteur qui le fait, c'est la chanson. Alors, dans l'œuvre, est-ce qu'on pourrait dire, c'est pas l'artiste, c'est pas le producteur, c'est l'œuvre ?
Là, c'est l'œuvre parce que c'est le collectif, en fait. Et le collectif, aujourd'hui, en 2025, est essentiel. Parce que tout le monde est individualiste. Et c'est extrêmement important, en fait, d'associer les gens entre eux pour pouvoir créer des œuvres communes. Et là, je suis extrêmement heureuse qu'on ait réussi cette prouesse, parce que c'est une vraie prouesse d'avoir en 6 semaines déjà 100 cartes d'œuvres collectives. Donc je remercie tous les participants et participantes, et puis l'atelier aussi, d'avoir accueilli ce projet et d'y avoir cru.
Alors, on va refaire un tour de table, on va voir si c'est aussi efficace que ce que l'on dit. Alors, Florence, elle tire une carte au hasard. Stéphane aussi. Florence, je vous explique, vous parlez près du micro. Hein.
Ah, mais alors, merci de m'expliquer, parce que vraiment, j'avais aucune idée. Comment faire. Je pensais à l'ampoule plutôt, mais non, non c'est le micro.
C'est dans le micro qu'il faut parler.
Alors, c'est drôle, mais j'ai déjà tiré tout à l'heure une carte pendant l'atelier de Stéphane. Et puis, j'ai toujours l'impression que l'eau me poursuit. J'avais une sorte de poulpe. Alors là, je ne sais pas, franchement, je vous la montre. On voit une sorte d'animacule. On ne sait pas exactement qui flotte dans l'eau. Un petit peu dans la tourmente de l'eau. Je ne peux pas vraiment vous dire, c'est assez abstrait. Je ne peux pas vous dire que ça me donne une sensation très agréable.
Est-ce qu'on ne pourrait pas par hasard croire que c'est peut-être comme un genre de sirène ou quelque chose comme un hippocampe?
Alors, hippocampe, je suis assez d'accord, qui flotterait voilà, comme ça dans la tourmente.
Tout à fait, qui se déambule, là, sa façon de bouger dans l'eau, justement.
Ouais.
Moi, je voyais dans le ciel, je voyais ça plutôt comme une galaxie.
Ah, comme une comète ?
Non, une galaxie, ouais. L'ensemble des
Ah, pardon, ouais.
La carte du ciel.
La carte du ciel, ok. Stéphane ?
Moi, je voyais aussi l'hippocampe.
Parle devant le micro, s'il te plaît.
Ah, ouais.
C'est Madame Florence qui a pris mon micro. Donc,
c'est une fois qu'on prend goût. Hein,
ouais. Alors, moi, je voyais l'hippocampe, mais aussi dans une forme de cartographie avec des définitions de lieux comme des petites îles. Et je vois un bout de lune en bas de la carte. Ça, ouais. Et il y a plein de petits traits. Mmh. Alors, je me dis peut-être les petits traits, c'est le nombre de jours du déplacement dans cet espace de l'hippocampe.
Waouh.
Je ne sais pas.
C'est votre hippocampe. Hein.
Un petit peu, oui.
Mais c'est vrai que cet atelier de Poinçon a des allures d'aquarium un peu, donc on pourrait imaginer une fois avoir des poissons. Surtout qu'auparavant, Mina Yu, qui utilisait cet espace, qui est une artiste chinoise, elle faisait des espèces de pieuvres attatées. Donc elles étaient pendues au plafond, puis on pouvait venir les serrer, les emporter, les toucher. Elles étaient composées aussi avec des matériaux déstressants. D'ailleurs, je vois là, il y a une magnifique un poulpe. Envie de jouer, Marina ? Alors, je vous redonne une carte, vous prenez le micro.
Je dois dire quoi, là ?
Qu'est-ce qui est marqué sur cette carte ? Qu'est-ce
envie
qu'elle dit
de jouer.
Cette...
Je fais quoi ?
Vous pouvez décrire la carte ?
C'est une sorte rouge avec une sorte, comment on appelle ça, pissenlit dessus.
Le pissenlit, le fameux pissenlit. Vous voyez la place
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette fleur?
On souffle et puis il n'y a plus rien.
Ouais. Il y a des aigrettes qui s'envolent au vent comme des petits vœux.
Oh.
Et c'est comme un jeu. On souffle ses petits vœux. Vous voulez en faire quoi?
Ouais, j'en fais quoi?
Vous pouvez la reposer. Ou raconter une histoire avec les aigrettes qui soufflent au vent.
Moi, je ne m'y connais rien, ce machin.
Ah non? Les pissenlits, on souffle puis ça s'envole. D'ailleurs, c'est le symbole qu'on trouve dans le dictionnaire, les Larousse. Je sème à tout vent.
Ok. Alors, j'ai envie de jouer à quoi, alors?
Alors, l'idée, c'est simplement pour l'instant de décrire puis d'en parler.
Ah, ok.
Il n'y en a pas une qui gagne l'autre. Hein. C'est pas, il n'y a pas de gain. C'est pour ça que je n'aime pas tellement ce jeu. Moi, j'aime jouer. J'aime gagner.
Alors, il n'y a pas de gagnant. J'ai une carte qui ressemble à un 8. Mais dans l'autre sens, ça représente l'infini. Et c'est marqué, l'infini, c'est l'éternel. Voilà. Eh ben, on dirait une autoroute aussi, selon comment on regarde.
L'infini, c'est long, surtout à la fin, comme il disait.
Oui.
Joël, il avait encore une.
Alors, moi, je n'ai pas eu besoin de tirer. On m'a donné cette carte devant moi. Justement, sur cette carte-là, ça veut tout dire sur la carte, hein, c'est cultiver sa joie. On est toujours dans des moments, des fois, très difficiles, mais si on peut être tous ensemble et puis profiter du sourire de l'un, de l'autre, de se regarder, même s'il y a quand même sur certaines cartes, sur la carte que j'ai devant moi, des ombres, des traits noirs, justement. Mais il faut tout regarder le reste et surtout, ça veut tout dire cultiver sa joie.
Eliane, elle va nous en décrire une...
Alors, la mienne, elle est bleue et il y a beaucoup de pavés, des petits carrés dessinés en blanc. Je vous lis aussi le texte. Dans la vie, il ne faut pas être parfait, il faut être vrai. Et ces petits pavés-là, ça me fait penser à la course cycliste Paris-Roubaix, où il y a plein de pavés.
Vous connaissez l'expression « sous les pavés, la plage », hein ? C'est une expression de l'époque de mai 68. Hein. Le cyclisme, vous suivez les courses de cyclistes?
Je suis le Tour de France. Le Tour de Romandie, je ne les connais pas. Donc, je préfère. Je regarde tous les sports, moi, à la télévision. Donc, pratiquement tous. Mon préféré étant la moto, la Formule 1 et le rugby.
Ben là, il y a le grand 8 de Formule 1 sur la carte qui ressemble à une autoroute.
Tout à fait, tout à fait.
On a eu ici, un jour, nous avons reçu sur notre antenne Suzanne Ball.
Suzanne Bellon.
Ball. Madeleine, dit Maggie. Et Elvio a choisi une chanson, puis comme il n'est pas là, c'est moi qui dois l'assumer. Donc Maggie Ball, c'est aussi le nom. Écoutez, c'est aussi le nom d'une chanteuse, Maggie Ball. Et cette chanteuse, elle dit, moi, je chante tout haut ce que tout le monde pense tout bas. D'accord, c'est des chansons un peu burlot, comiques. Alors attention les oreilles, cramponnez vos slips, on va écouter Maggie Ball.
Avec sa dégaine de vieux beau, qu'il allait finir en chanson sur son camion, une inscription Jean-Marc, pathétique, débouche tes canalisations, vidange ta fosse sceptique. S'il avait été zingueur, je me serais bien fait dézinguer. S'il avait été monteur, je me serais bien fait démonter. S'il eût été ramoneur, je me serais bien fait ramoner. Mais Jean-Marc, c'est un crooner qui débouche tes WC. J'aimerais que tu protèges ma berge, que tu me cures le siphon, que tu me carchérises, que tu m'asperges le fond des canalisations. Vidange-moi le bac à graisse, qui est plein comme un gendarme, j'ai les conduits en détresse. Tire-moi la sonnette d'alarme, caresse-moi le robinet. Déverse-toi dans mon égout, inspecte-moi la cavité. Et remplis-moi les trous, ah oui, dégaze-moi la cuve. Pompe-moi la fosse septique, il fait tout chaud dans mon étuve. Viens faire un tour sous mes tropiques. S'il était archéologue, je l'aurais laissé fouiller. S'il eût été proctologue, je me serais bien fait proctoler. Je me serais fait déculotter. S'il eût été sans culotte, mais Jean-Marc est habillé et il s'occupe de tes chiottes. Détarte-moi la colonne, désingue-moi la plomberie. Oh oui, prouve-moi que t'es un homme. Inspecte-moi la tuyauterie, assainis-moi le caillon, réhydrate mes sédiments, ventouse-moi le bourson, canalise-moi violemment. J'ai les fluides qui se détraquent. Je crois que j'ai perdu les eaux usées. J'ai comme des fuites dans le cloaque et le réservoir percé. J'ai l'impression que je suis plus étanche. Oh oui, Jean-Marc, colmate-moi. Il suffirait d'un petit coup de manche pour que ça reparte comme autrefois.
Voilà, on comprend mieux pourquoi Elvio m'a donné la tâche d'annoncer, de désannoncer cette chanson. Alors, merci Elvio, je souhaite un bon rétablissement, je me réjouis de te retrouver. Avant de poursuivre sur ce jeu, j'aimerais qu'on termine un peu qu'est-ce que ça va en devenir. Mais nous avons ici Florence Grivel qui est venue visiter. J'aimerais avoir un peu son opinion. Tu as passé une demi-journée ici dans le quartier culturel, l'hôpital.
Je viens d'ailleurs poster un super post sur Instagram parce que j'ai adoré. J'ai l'impression d'être dans Célesteville. C'est-à-dire que c'est activé partout. C'est de la vie, plus, plus, plus. Il y a chaque jeudi cette espèce de table d'hôte avec... Un lunch en trois actes absolument extraordinaires où on vient nous déclamer le nom des plats. On rencontre des gens de partout qui ont des parcours tout à fait chaque fois étonnants, singuliers. Puis on se retrouve autour d'une artiste qui nous offre la possibilité de créer des cartes, ensuite de faire parler toutes ces histoires et d'être justement ensemble. J'ai adoré aussi voir le parc qui est maintenant... Absolument, l'herbe est coupée pour permettre aux châtaignes de tomber, pour que tout le monde puisse venir ramasser les châtaignes, parce que c'est un endroit aussi public ici. Il y a des expositions formidables aussi, on en a encore deux à voir jusqu'au 21 septembre. Et donc, je me réjouis comme une folle de prendre tout le matos sonore que j'ai, toutes les choses que j'ai enregistrées toute la journée pour en faire un petit sujet sur les ondes de RTS, la première, dans l'émission Vertigo. Ça passera lundi et j'espère vraiment vous rendre hommage. J'ai adoré venir ici, c'est la vie.
Merci parce que... Florence Grivel est journaliste culturelle. Ça fait des années qu'elle fait le tour des expositions, des galeries, qu'elle tient des chroniques. Donc, elle nous donne un avis autorisé, comme on dit, ou bien...
J'espère, en tout cas, enthousiaste.
Enthousiaste. Eliane.
C'est à quelle heure, Florence, cette émission Vertigo ?
Alors, c'est très gentil de me poser la question. C'est de 17h à 18h du lundi au vendredi. Et donc, j'aurai une petite... les chroniques, en général, sont de la première demi-heure de l'émission.
Je me réjouis.
On se réjouit d'entendre, oui. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler du devenir de ce jeu.
Alors déjà, je vais vous parler d'un mot que je connaissais absolument pas, qui a été un des titres qui était proposé, qui s'est, je ne sais pas si j'arriverai à le dire ce mot, ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner son avis sur des sujets auxquels on n'a pas de compétences crédibles.
Merci beaucoup de dire juste après mon passage.
Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de titres. Donc, on cherche, mais il y a des jolis titres. Je vais quand même vous les lire. C'est un peu comme un cadavre exquis. Alors, dans un contour, tiramisu, tel que tu es, telle quelle, résonance polysémique, résonance écrit avec une autre orthographe, suite à voix, que dire ? Tourner autour, je suis, hybride, canevas, variation, maintenant, à rebrousse-carte, dans le sens de la pioche, la divine thérapie, devine, voie cartographique, cartomantique, hospice, malévose.
Malévoz, pourquoi il y a un Z à Malévoz?
Ben, à vous la parole.
Pour dire que le O ne se prononce à peine. Malève. C'est, par exemple, évéco, c'est pas, ça veut dire évêque. Alors, comme on entendait à peine, on mettait un Z. Malève, Arlette, Nande, c'est juste.
Oui. Oui, tout à fait. Nanda, Nandaz. Mais on ne prononce pas le Z.
Mais en fait, on
dit Nanda.
Mais moi, j'ai dit Nand, on dit en Wanand.
Oui, on dit en Wanand. On est bien là-haut.
Oui.
Plus c'est haut, plus c'est beau.
Bravo, Anand.
Il faut aller à Nanda, c'est magnifique, c'est ma vallée.
Et si on veut que la dernière lettre se prononce, on met un X. Chamonix, B, Champé. Voilà. Donc là, ce serait bien de mettre un Z pour dire ben, on voudrait qu'ils s'entendent. Alors ce jeu, vous l'avez testé hier avec des soignants. Qu'est-ce que ça a donné?
Alors hier soir, on a fait une soirée de jeu ici avec un mélange de gens. Et donc, quelques soignants. Et c'était intéressant parce que parfois, il y avait des cartes qui laissaient silencieuses. Mais parfois, les cartes animaient une discussion à bâton rompu. Et même le public intervenait en regardant la carte. Et en fait, l'idée de la carte, du jeu, c'est de tirer trois cartes. Et ça serait pouvoir, dans les consultations avec les soignants, d'avoir le jeu de cartes posées, puis de tirer une carte et d'ouvrir la parole, et d'avoir un dialogue avec le soignant qui lui exprime aussi sa vision de la carte. Et en fait, c'est un peu lâcher les masques, quoi. Qu'est-ce qu'on voit à travers ces cartes? On est vrai et tout le monde est vrai. Et c'est pour ça que c'est le thème du jeu. C'est l'alliance et la reliance entre les êtres. Voilà ce que je peux dire sur ce jeu.
Puis on tire trois fois trois cartes, non?
Ben, l'idée, ça serait trois cartes. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé hier soir qui a mis 8 A. Donc, il y a eu 8 cartes. Donc, il a fallu déployer. Moi, je pense que c'est un jeu qui est totalement libre, comme l'atelier est totalement libre.
Non, mais là, c'est un bavard si tu tires d'entrée 8 cartes.
Oui, oui, oui. Oui.
Mais hors antenne, vous m'avez dit que ce jeu va être édité.
Ben, c'est l'annonce qu'a dit M. Binder face à l'immensité de la créativité de tout le monde, de ce collectif. On verra.
Non, l'idée, c'est de l'éditer, de faire un jeu de cartes. On pourrait le ramener. C'est un jeu de cartes collectif. Donc, le groupe qui les a constitués réfléchit aussi à sa forme finale, sa taille et quel dos, trouve un nom, préciser les règles, trouve un emballage. Donc, ce n'est pas tout à fait fini, le projet. Il n'est pas tout à fait terminé.
Non, non, ça c'est en cours, on doit encore expérimenter le jeu entre nous, donc l'atelier 6A, et puis imaginer des emballages, on a déjà 2 possibilités, il y a une 3e en cours, mais peut-être qu'il y en aura plus, et puis trouver le titre.
On va faire un petit sondage, hein, très rapidement. Joël, est-ce que vous serez prêt à acheter ce jeu de cartes, 99 cartes, puis quel serait votre prix pour 99 cartes? Combien vous serez prêt à payer ce...
Alors, c'est très, très difficile à dire niveau prix, mais je pense que c'est tellement... Je reste étonné, même perplexe de regarder la beauté des cartes que je vois. Même là, il y a deux... Sur une de mes cartes, la première que j'ai tirée, hein, je vois carrément... C'est toujours un combat chez nous, justement, ici, dedans, de faire un bras de fer. Il y a 2 tennismans.
Oui, mais là, un prix.
Parce qu'il... Un prix. Ouais. Moi, je dirais... Je passe le micro à ma collègue, je dirais joker.
Un joker.
Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de prix pour ce jeu, parce que c'est un jeu aussi qui permet de nous exprimer et qui va beaucoup aider les gens pour des raisons thérapeutiques ici, qui peuvent permettre aux gens de s'exprimer, de partager leurs émotions. Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas de prix.
Mais 33 francs serait trop cher. 33 francs.
Oui, c'est trop cher.
22, voilà les flics, 22.
Moi, je trouve ces cartes, elles sont très belles, elles sont très colorées. Il y a beaucoup de créativité et d'imagination. Moi, je dirais 7 francs.
7 francs. Ouais. Alors, on va discuter encore du prix final, 7 francs. Mais dans l'immédiat, il est l'heure de prendre congé de tout le monde. Alors, merci Florence, Stéphanie, Stéphane, Corinne, Karine, Joël et Eliane. Merci Julia Morand à la technique et la réalisatrice Dominique Stalder. C'était Pavillon Nomade.
Merci beaucoup, Gabriel.